Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le conseil départemental de la Sarthe qui met en avant la pratique du sport à travers ses différents acteurs, ses associations, ses structures et ses entreprises. Et aujourd'hui nous sommes avec Guillaume Lemarié, entraîneur de l'équipe senior de la JALT qui fait une saison parfaite cette année et qui va pouvoir passer en National 2. Je passerai la main à mon acolyte pour cette partie de l'émission, Lucas Ligé, bonjour.
Bonjour.
Puis nous serons avec Dimitri Degnaud, entraîneur de karaté au Samouraï 2000 et coordinateur adjoint du club, avec qui on reviendra sur les récents championnats de France cadets et juniors. On commence tout de suite avec notre premier sujet du jour.
Radio Alpa, l'alternative.
Si je vous dis équipe Mancelle de basketball, vous penserez sûrement au MSB. Pourtant, un autre club du Mans est en train de réaliser une saison exceptionnelle. La JALT Le Mans, club basé dans le quartier de Pontlieu, évolue cette saison en National 3, le cinquième échelon national, mais il a déjà validé sa montée en National 2 alors que la saison n'est pas finie. Mieux, l'équipe a remporté tous ses matchs, 25 victoires en 25 rencontres, et a donc la possibilité, en gagnant demain lors de son dernier match, de réaliser une saison parfaite. Pour en parler, nous sommes avec le coach de cette équipe, Guillaume Lemarié. Bonjour.
Bonsoir.
Alors, comment vous sentez-vous avant votre dernier match de demain contre Luçon Saint-Gem à domicile? Le fait de pouvoir réaliser une saison parfaite, est-ce que ça suscite un peu de pression supplémentaire chez vous et vos joueurs?
Non, pas spécialement. On va dire que moi, mon état d'esprit, je suis assez détendu en tout cas, parce que vraiment l'objectif que l'on avait, c'était cette montée en National 2. Et donc, voilà, je pense qu'on l'a atteint et on ne va pas se mettre de pression supplémentaire. Ça sera, si on arrive à faire la saison parfaite, ce sera tant mieux, ce sera la cerise sur le gâteau.
Est-ce que vous attendez beaucoup de monde demain à votre gymnase? Est-ce qu'il y a des festivités peut-être de prévues?
Alors, pour les festivités, j'avoue, je ne sais pas. Mais oui, je pense qu'il y aura du monde, il y aura du monde demain soir. Bon, d'une manière globale, je dis que le public a... Enfin, c'est pris aussi d'attachement un peu pour cette équipe. Vraiment, on a senti que c'est pris au jeu et le public a suivi. Et donc, oui, cette année, on a souvent fait le plein. Hein. Donc, c'est vraiment une bonne chose.
Et faire le plein pour la JALT, ça veut dire combien de supporters à peu près?
Bon, on va dire entre 400 et 600 spectateurs. Mais bon, voilà, on est un petit peu dans cette fourchette-là. Après, voilà, on peut plus pousser les murs après.
Alors, est-ce que le club a déjà connu une saison parfaite comme celle que vous pouvez réaliser demain en cas de victoire?
Je vous avoue, je ne sais pas si ça s'est déjà passé avant. Il faudrait qu'on demande entre guillemets aux historiques du club. Mais bon, ouais, ça reste quelque chose de rarissime, ça c'est sûr.
Donc que ça a été fait ou non, cette saison, elle est d'ores et déjà historique. Est-ce qu'au début de l'année, vous vous attendiez à de telles performances de vos joueurs?
On savait qu'on avait les qualités intrinsèques, voilà, pour aller chercher cette première place. C'est une équipe qui avait besoin de rebondir après, je dirais, peut-être l'échec de la saison précédente, qu'elle montre un nouveau visage. Voilà. Donc, c'était important. Et il a fallu qu'on incorpore les nouveaux qui sont arrivés aussi à l'intersaison. Gérer un petit peu toutes ces individualités, puis arriver à créer un groupe, entre guillemets, pour qu'il soit réellement focus sur l'objectif. Donc, tant mieux. Ça a été fait.
Quand vous parlez d'échec pour la saison dernière, quel était le classement de l'équipe?
Enfin, ils ont terminé cinquième, c'est pas... Voilà, mais je pense que cette équipe avait déjà aussi les moyens d'aller jouer la première place. Donc je pense que pour le club, il y avait une petite déception par rapport à ça.
Avec votre succès, vous êtes devenu au fil de la saison l'équipe à battre. Je pense qu'il y avait un peu une surmotivation de vos adversaires quand ils vous affrontaient. Est-ce que ça a été difficile d'être constamment dans le viseur des autres équipes?
Oui, on savait qu'on était attendu sur chaque match à l'extérieur. On a eu le droit à des ambiances assez chaudes, ma foi. je pense même que nos adversaires, ils ont souvent fait leur meilleure affluence quand la JALT se déplaçait. Bon, il y a quelques noms qui attirent, c'est sûr. Et voilà. Donc, nous, on a montré qu'on avait cette motivation pour se sortir un petit peu de ces matchs un peu pièges. Cette envie aussi de prouver toute la saison qu'on a été solide. Et donc, d'être capable d'aller gagner ces matchs dans des ambiances un peu tendues, donc c'est bien.
Alors justement, quels ont été les matchs les plus difficiles pendant la saison? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez vraiment cru perdre votre invincibilité?
Ouais, y a plusieurs équipes qui nous ont qui quelquefois nous ont donné du fil à retordre. Je pense à Chaland, je pense à la Séguinière, qui sont les équipes de haut de tableau, mais pas que. Il y a Luçon aussi, qu'on jouera demain aussi, qui est une très très bonne équipe qui produit du beau basket. Voilà. Mais c'est difficile d'isoler une telle ou telle équipe, mais moi ce que je retiens surtout, c'est qu'on a surtout été très sérieux sur tous les matchs qu'on a abordés, surtout à l'extérieur. Quoi.
Alors vous avez parlé de Luçon. Pour revenir sur ce match de demain, expliquez-nous comment vous préparez vos rencontres. C'est quoi une semaine type à la JALT avant un match ?
Bon, faut savoir que globalement, on s'entraîne entre 2 et 3 fois semaine. Vraiment sur un... voilà, je schématise, mais bon, sur un rythme de compétition, on essaye vraiment de mettre l'accent sur tout ce qui est rythme, course, intensité. Dans chaque situation qu'on va mettre, on essaye que ce soit du jeu réduit ou du jeu à 5. Voilà, de toujours garder un petit peu cette notion de d'intensité, de se rapprocher toujours le plus près de la compétition. Et on fait beaucoup de jeux également, beaucoup de situations jouées, c'est important aussi. Ça reste des compétiteurs, donc on reste beaucoup sur des situations jouées. Et voilà, encore une fois, on essaye de se rapprocher au plus près de la compétition.
Est-ce qu'il y a un travail, quand vous préparez un match comme ça, d'observation vidéo, ou même vous vous rendez peut-être dans les gymnases des autres équipes pour observer un peu des points faibles et préparer votre rencontre en fonction de ces faiblesses ?
Alors, on peut avoir des vidéos, on n'en a pas systématiquement sur la N3. Tout le monde ne filme pas. Après, on a beaucoup d'échanges aussi entre coachs, on se communique des informations. Et puis, on essaye un petit peu de regrouper des données, des stats, ce genre de choses. Donc, on prépare un petit peu tout ça en amont. On collecte et puis on prend des notes. Et puis voilà, on se prépare par rapport aussi à toutes ces infos-là, quoi.
Alors après la saison, vous avez des play-offs, on appelle aussi des phases finales, durant lesquelles vous allez affronter tous les champions des autres poules de N3 en France. Est-ce que, le club avait remporté ses play-offs en 2004, est-ce que c'est un objectif pour vous de réitérer cette performance, surtout là où vous vous appuyez sur une grosse saison ?
Bah, j'ai envie de dire, évidemment, on est compétiteurs, donc déjà quand on s'engage dans quelque chose, on a envie de le gagner. Maintenant, on sait que les playoffs, c'est un format qui est un petit peu particulier, puisqu'il va falloir qu'on soit capable d'enchaîner des matchs rapidement et ce, plusieurs jours à la suite. Donc, c'est pas simple. Il s'agit à la fois d'être bien physiquement, mais aussi d'être capable de récupérer, entre guillemets, entre chaque match. Donc, ce sera une donnée qui sera importante, mais encore une fois, voilà, moi je mets pas de pression, on se met pas de pression supplémentaire par rapport à ça. Je me répète, mais l'objectif du club, encore une fois, c'était la N2, voilà. Donc si on va au bout, et ben tant mieux. Voilà, ça viendra entre guillemets. Je parlais de cerise sur le gâteau, mais voilà, c'est vraiment le terme. Mais on sait que ce sera pas simple, et puis mais si on a l'occasion, on ira pour gagner, et si on a l'occasion de faire aussi bien que l'équipe de 2004, oui, on va pas s'en priver.
Alors nous l'avons dit au début de cette interview, vous êtes assuré de monter en National 2. La JALT est un club qui a souvent fait l'ascenseur entre le championnat de National 3 et le championnat de National 2 ces dernières années. La dernière saison en National 2, c'était en 2023. J'imagine que ça doit être une grande satisfaction pour le club, pour tous les bénévoles de retrouver ce niveau d'élite.
Oui, bien sûr. Et puis le club attendait vraiment ce retour. Et puis je pense encore une fois, voilà, je pense que l'équipe, même par rapport à la saison dernière, qui était déjà un petit peu calibrée, mais ça n'a pas fonctionné, ça arrive. Je pense que le club, les dirigeants sont contents de pouvoir cette année pouvoir accéder plus haut. Et puis, il faut savoir aussi que la JALT, ça fait 50 ans de présence consécutive en championnat de France. Donc, c'est une année anniversaire cette année. On ne pouvait pas mieux fêter l'anniversaire. Donc, je pense qu'ils sont satisfaits. Cette année, on a vraiment montré on a su créer et montrer qu'on était un vrai groupe. Donc, c'est très bien.
Mais les championnats de N3 et de N2, ils sont quand même assez différents. Il y a un écart de niveau conséquent entre les deux échelons. Comment vous allez vous renforcer ? Quelles vont être les prochaines étapes maintenant pour être compétitif l'année prochaine en National 2, même si, vous l'avez dit, vous avez une équipe calibrée pour ce niveau ?
Moi, je n'ai pas de doute sur la compétitivité pardon, de cette équipe en N2. Je crois même qu'elle est capable de figurer même dans le haut de tableau l'année prochaine. En ce qui concerne l'effectif, on ne va pas tout révolutionner parce que je pense qu'on a l'effectif pour, et je pense que tout le monde a pris du plaisir cette saison. Et donc, et tout le monde a envie de poursuivre. La très grosse majorité des gars, à mon sens, seront présents l'année prochaine. Donc voilà. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en plus on a signé Pierre-Étienne Drouot là qui arrive de Tours là et qui fait sens un petit peu par rapport aux joueurs que l'on a jusqu'à présent, puisque c'est quelqu'un qui a déjà joué en jeune à la Jalte, et puis il est également passé par le centre de formation du MSB, et donc pour lui aussi ce sera un petit retour aux sources.
Alors justement, l'arrivée au club de Pierre-Étienne Drouot, avec son arrivée, ça fait plusieurs anciens joueurs professionnels dans votre groupe, Jérémy Leloup, Kevin Mendy, Alain Coffi. Au-delà de leur qualité évidente sur le terrain, qu'est-ce que ces joueurs expérimentés, ils apportent à votre groupe ?
Je pense que déjà, le public prend beaucoup de plaisir à retrouver, je pense, d'anciens pros qui sont passés par le Parlement et qui reviennent finir leur carrière dans la ville qui, avec beaucoup de guillemets, les a fait décoller, entre guillemets, ou leur a permis de faire leur carrière. Je trouve que c'est un joli clin d'œil. Maintenant, pour le groupe, c'est évident, ils apportent, au-delà de leur expérience du haut niveau, à la fois une certaine sérénité, mais également du leadership. C'est des gens qui aiment avoir des responsabilités et puis qui aiment quand justement qu'on leur en donne, donc ils apportent beaucoup de choses.
Et en National 3 et même bientôt dans votre cas en National 2, est-ce que les joueurs et même l'entraîneur sont à plein temps ou est-ce qu'ils ont une activité à côté ?
Non, comme je vous ai dit, on s'entraîne entre deux et trois fois dans la semaine. Tous ces joueurs, là, même ceux qui reviennent, soit ils ont débuté, soit ils reprennent une activité professionnelle à côté. Donc on est tous dans la même situation. Moi, également, il faut qu'on arrive à jongler entre son activité professionnelle, ma casquette de coach, entre guillemets, ma vie familiale. Donc voilà, et pour les joueurs, c'est la même situation. Donc on est tous à la même enseigne là-dessus.
Merci beaucoup, Guillaume Lemarié, d'avoir répondu à nos questions. La Jalte Le Mans joue donc son dernier match samedi 17 mai à 20h à la salle Patrice Fresnay au Mans contre Luçon Saint-Gemme.
Merci.
Et merci beaucoup Lucas Liger, et on va passer à présent à notre deuxième sujet du jour.
Radio Alpa, l'alternative.
Les jeunes karatékas du Samouraï 2000 ont porté les couleurs du Mans dans la haute compétition ces dernières semaines. D'abord dans le championnat de France cadet du 26 et 27 avril, mais aussi dans le championnat junior du 3 et 4 mai. Alors comme d'habitude, les guerriers et guerrières du Samouraï 2000 en ressortent avec un beau parcours et des médailles. On revient sur ces deux compétitions avec Dimitri Degnaud, coordinateur adjoint du Samouraï 2000. Et entraîneur du club en karaté. Bonjour Dimitri Degnaud.
Bonjour.
Alors pour rappel, la catégorie junior regroupe les karatékas de 17 à 19 ans et les cadets de 14 à 16 ans. On est donc sur de jeunes sportifs. Pour autant, tous ceux qui étaient présents lors de ces compétitions étaient expérimentés, Dimitri Degnaud. On n'expérimente pas la compétition au niveau national, j'imagine.
Non, tout à fait, oui. On obtient sa qualification pour les championnats de France, donc par un réseau, en fait, le championnat de Sarthe, championnat départementaux, championnat régionaux, et on obtient sa qualification. Donc, il faut gagner des combats avant pour pouvoir accéder au championnat de France. Et l'objectif, notamment du centre de formation et du Samouraï 2000, c'est de performer au niveau national, de performer, de monter sur le podium au championnat de France.
Et alors, pour ces championnats de France, c'était uniquement du combat. Il n'y a pas de kata au niveau national ou alors c'est d'autres compétitions encore ?
Si, bien sûr, il y a les championnats de France kata, mais c'est une compétition à part. Voilà, et ici, au Samouraï 2000, on excelle plus dans le kumité, dans le combat, compétition, mais aussi on fait du kata quand même au Samouraï 2000, mais pas sur l'aspect compétition.
Alors d'abord, parlons un petit peu des cadets, avec une compétition masculine et une compétition féminine. Plusieurs samouraïs se sont illustrés, notamment Luan Moscou, qui remporte la médaille de bronze dans les moins de 61 kilos. C'est toujours une position ambiguë, hein, la médaille de bronze, parce qu'on est sur le podium, mais on est en bas du podium. Alors, comment Luan a-t-elle vécu cette compétition ? Est-ce qu'elle est contente de sa performance ou plutôt déçue d'avoir manqué l'or ?
Alors, je la connais 100, elle est déçue parce qu'elle elle visait le titre, voilà. Mais c'est quand même une super médaille parce que le parcours en elle-même, il faut savoir que Louane a été blessée l'année dernière, donc elle n'a pas pu participer au championnat de France cadet l'année dernière parce qu'elle s'est blessée au genou. Donc elle a fait tout le parcours de sélection après. Déjà, elle s'est réathlétisée, elle s'est guérie, elle est revenue et elle a performé là au championnat de France. Donc c'est une belle médaille de bronze. Même si elle pouvait vraiment aller remporter le titre, forcément, mais elle n'avait pas un tableau facile.
Oui, parce qu'elle a perdu la demi-finale face à la future championne de France.
C'est
en fait. Qu'est-ce qui lui a manqué face à cet adversaire ?
Mais encore un peu d'expérience. Voilà, c'est une jeune athlète qui vient d'arriver, qui est arrivée au Samouraï 2000 depuis, on va dire, trois saisons. Mais la saison dernière, elle était un petit peu blessée. Voilà, donc il a fallu composer un petit peu avec ça. L'expérience encore. Voilà, mais c'est une jeune athlète en devenir parce que là, par exemple, elle a fait 3e au championnat de France cadet, mais elle a fait 7e à la Youth League de Guadalajara en Espagne. Donc c'est une manche de Coupe du Monde. Donc ça, c'est une belle performance au niveau international. Hein, c'est vraiment au niveau international.
Effectivement.
Et elle arrive à obtenir la 7e place pour sa 2e compétition internationale. Donc voilà, c'est une athlète en devenir, on va dire. Voilà, mais voilà, le titre était pas loin. Mais c'est comme toute compétition, il faut être prêt le jour J. Et là, ça a manqué un petit peu de.
Pour la prochaine fois, peut-être, du coup.
On espère. Voilà.
Alors, d'autres cadets ont eu un beau parcours. Marianne Caminade qui s'est inclinée en demi-finale face à la championne d'Europe, Kumi Li Lu. Là encore, une adversaire redoutable. Ça reste une fierté dans la défaite d'avoir perdu face à de tels adversaires ?
Oui, non. Franchement, non, parce que même championne d'Europe, elle est battable. Parce que là, Marianne a perdu que d'un point, hein, face à la championne d'Europe. Franchement, elle avait largement la possibilité de la battre. Voilà. Mais c'est pareil, Marianne, elle vient d'intégrer le centre de formation, c'est de l'expérience. Elle manque un petit peu d'expérience. Et puis rencontrer une tête de série comme ça, ça fait toujours un petit peu peur à leur âge, à 14-15 ans.
Mais c'est le psychologique qui a pu jouer aussi.
Oui, de toute façon, dans le haut niveau, c'est la partie mentale qui joue en compétition. Hein. On s'entraîne avant, physiquement, techniquement, au niveau tactique. Mais le jour de la compétition, c'est l'aspect psychologique qui prend le dessus. Parce que tout le travail était fait en amont.
Alors, une autre performance impressionnante, c'est celle de Léa Skiberas, qui a été défaite au premier tour, mais qui s'est battue tout au long du repêchage. Alors, ça l'a emmenée jusqu'où
Ça l'a emmenée jusqu'à la finale de bronze, voilà, qu'elle perd malheureusement. Mais la demoiselle, là, Léa, ouais, elle fait un super parcours. Sachant qu'en plus elle a remonté tous ses tours de repêchage, elle a eu une grosse. Heureusement que la condition physique a bien marché parce qu'elle a enchaîné tous ses combats. 2 minutes de combat haute intensité, 2 minutes de pause, 2 minutes de combat haute intensité. Et elle a remonté 4 tours comme ça.
Ah oui, c'est que 2 minutes les combats.
Oui, c'est 2 minutes.
Ah oui, il faut être très efficace.
Oui, oui, 2 minutes. Et alors, comment dire, à leur niveau. Après, chez les seniors, c'est 3 minutes. Mmh. Mais c'est de la haute intensité. Hein. Faut savoir que.
C'est un flash info, quoi.
Ouais, mais. En fait, il y a eu des études qui ont été faites. Par exemple, un combat de 3 minutes chez les seniors, ça équivaut à une finale du 400 mètres en athlée, au niveau olympique. Voilà, donc c'est en termes de dépenses énergétiques, c'est énorme. Voilà, donc il faut vraiment être affûté physiquement. Et Léa voilà, elle a fait un super parcours en repêchage. Malheureusement, elle s'incline pour la place de 3. Mais pour sa première année, deuxième année au centre de formation, c'est une belle performance. Voilà. Mais ça ne suffit pas pour monter sur le podium.
Alors, on le rappelle, les cadets sont âgés de 14 à 16 ans. Ils restent donc encore très jeunes. Comment est-ce qu'on entraîne d'aussi jeunes sportifs à un aussi haut niveau de compétition, Dimitri Deniaux ? Est-ce qu'on a le même niveau d'exigence qu'avec des sportifs plus expérimentés ?
Alors, le niveau d'exigence est le même, parce que dans le haut niveau, c'est ce niveau d'exigence qui fera la différence. Maintenant, c'est, on va dire, la charge d'entraînement, le volume d'entraînement, prendre en charge aussi leur croissance, leur état de forme, leur état psychologique, parce que c'est des ados qui se construisent. Donc, il faut prendre ça aussi en compte. Voilà, donc il y a aussi beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges avec eux. Pour aussi un petit peu prendre la température et s'adapter.
Parlons alors des juniors qui ont eu leur championnat de France le 3 et le 4 mai, avec une compétition masculine, une féminine, mais aussi une compétition par équipe. Alors à noter qu'en 2024, en moins de 66 kilos, c'est Eva Livet du Samouraï 2000 qui avait remporté le titre. Mais malheureusement, cette année, elle n'a pas pu participer à la compétition, Dimitri Deniaux.
Oui, c'est ça. Elle s'est blessée au mois de mars, voilà, pour une blessure assez sérieuse. Et donc là, elle est en convalescence. Elle s'est blessée au genou. Donc elle va être indisponible pendant quelques mois. Donc elle est en train de faire de la kiné, de se réathlétiser. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas vue au championnat, malheureusement.
Alors Eva Livet a déjà connu une déception en février, éliminée dès le premier tour au championnat d'Europe. Puis en mars, grande victoire au championnat de France Espoir U21.
C'est ça.
Et aujourd'hui, donc de nouveau la redescente en ne pouvant pas défendre son titre. C'est un peu le parcours en montagne russe pour Eva Livet ces derniers mois.
C'est le parcours d'un sportif hein, de haut niveau. Voilà. Même si on va dire que les Europes, ce n'était pas ce qui était attendu, mais elle a su rebondir en gagnant les championnats de France Espoir. Ça, c'est une très belle performance parce que c'est aussi elle a été surclassée, donc elle arrive à remporter le titre chez les espoirs. Elle fondait beaucoup d'espoir chez les juniors parce qu'elle pouvait aller chercher le titre. Voilà, malheureusement, pareil, la blessure fait partie de la carrière, fait partie du parcours sportif. Donc, je la connais, elle reviendra encore plus forte parce que mentalement, elle est vraiment au-dessus du lot. Et voilà, c'est un peu les montagnes russes, mais c'est comme ça. Donc, il y a tout plein de chemin. Et
alors vous disiez tout à l'heure que le haut niveau, c'est vraiment le mental qui va jouer, et pour vous Eva Livet, elle a vraiment ce mental là à cause
oui.
du niveau
ouais, tout à fait, bien sûr, elle va surmonter cette épreuve et puis après on verra, après c'est à elle hein, c'est son projet, mais j'ai pas de doute quant à son état d'esprit.
Alors, fait étonnant, on retrouve là encore Loane Moscou, qui a poussé jusqu'en quart de finale, où elle rencontre là encore une championne, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la championne du monde et d'Europe en titre.
C'est ça.
Mais alors, comment elle a pu concourir à la fois en cadet et en junior? Comment ça
En surclassé, parce que Loane aussi, vu que, voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi une athlète en devenir, elle a combattu au championnat régionaux en cadette, elle a aussi combattu en championnat junior aux régionaux, et elle a obtenu sa qualification, mais parce qu'on peut être surclassé. Voilà, on peut aller chercher les surclassements, et là, elle a obtenu sa qualification, et puis elle a été jusqu'en quart de finale.
Donc le surclassement, ça veut dire qu'on concourt dans une catégorie qui normalement est au-dessus de nous, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Voilà, elle est cadette, mais elle peut aller concourir chez les juniors, comme les juniors peuvent aller concourir chez les seniors s'ils arrivent à obtenir leur qualification. Voilà.
Ça devait être en tout cas une très belle expérience pour elle de se confronter à la championne du monde.
Oui, oui, tout à fait. Ça a été riche d'expérience. Elle s'est rendue compte aussi que même si elle est championne d'Europe et championne du monde, elle est battable. Parce que même la championne d'Europe et championne du monde, Monica Arzumian, qu'on connaît très bien, c'est un client demi-finale. Voilà, donc elle n'a pas pu. Donc du coup, Loane n'a pas pu être repêchée. Mais comme quoi, tout est possible. Même un champion du monde, champion d'Europe peut être battu. Donc je crois qu'elle a pris l'expérience, elle a pris conscience qu'elle pouvait franchir les étapes. Donc c'est pour ça qu'on prépare les autres échéances à venir pour le mois de juin.
Et là encore, niveau médaille, c'est une médaille de bronze récoltée par Hermione Kerner en moins 48 kilos. Hermione Kerner qui en mars remportait comme Eva Livet le championnat de France Espoir dans sa catégorie. Qu'est-ce qui a manqué pour aller en finale au championnat de France combat alors?
Pour Hermione, alors Hermione elle est junior, hein. Donc elle a gagné les espoirs aussi en surclassé, tout comme Eva, et là c'était sa catégorie, elle fait troisième. Hermione rencontre une demoiselle qu'on connaît très très bien, Lola Cochard, qui est aussi derrière la région Pays de la Loire, donc on se côtoie souvent, elle a fait cinquième au championnat d'Europe, Lola. Et là, Hermione en demi-finale l'a peut-être un petit peu, entre guillemets, ce qu'on appelle nous dans le jargon, un petit peu trop respectée. Elle a laissé le statut de la championne en face et n'a pas voulu démontrer toutes ses marques et tout ce qu'elle est capable de faire, Hermione. Donc elle est sortie très frustrée parce qu'elle avait vraiment possibilité de gagner, elle perd que 2-1. Donc, même moi en tant qu'entraîneur, il faut qu'on arrive à passer ces caps-là parce que c'est ça qui fera la différence de toute façon.
Encore une fois, c'est le mental qui a joué.
Oui. Oui, tout à fait. Ouais.
Alors Dimitri Dogneau, un bilan général de ces deux compétitions, seulement 2 médailles de bronze récoltées, mais tout de même de beaux parcours et des combats face à des championnes. En tant qu'entraîneur, est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce qu'il faudrait viser plus haut?
Non, je ne suis jamais satisfait. Donc non, il faut viser plus haut, c'est pas ce qu'on souhaite. Voilà, donc l'objectif c'est vraiment d'aller chercher des titres, d'aller chercher des sélections nationales et champions au niveau championnat d'Europe et championnat du monde. Voilà, et on n'est pas loin. Mais il manque le petit truc, donc c'est à nous de trouver ce delta pour pouvoir performer. Donc on a d'autres compétitions pour essayer de voir, de travailler et puis de performer.
Et oui, donc ces prochains rendez-vous, c'est en juin, c'est ça?
Oui, alors en juin, il y a la Coupe de France de Nord qui a lieu à Chambly. Et pour deux athlètes, notamment pour Loane et Hermione, on se déplace à Porec en Croatie pour une manche de Coupe du Monde. Voilà, donc pour aussi préparer la saison prochaine, pour éventuellement une sélection championnat d'Europe pour les jeunes filles.
Donc du très haut niveau là encore.
Oui.
Alors Dimitri Dogniaux, pour finir, il y a un grand événement ce week-end au Samouraï 2000 pour ses 40 ans.
C'est ça, le masterclass de Turbo Kick Power, donc autre chose que le karaté. Mais le Samouraï 2000, ce n'est pas que du haut niveau. Le Samouraï 2000, c'est 21 disciplines. Et là, à l'occasion de nos 40 ans, parce que le Samouraï 2000 a 40 ans cette année, à l'occasion de nos 40 ans, on accueille l'équipe de Belgique qui vient faire un masterclass de Turbo Kick Power. Donc l'équipe de Belgique, c'est Jeannot Mulolo qui a créé le Turbo Kick Power. Et on le fait là ici au Samouraï 2000, demain matin, demain après-midi, dimanche matin. Donc c'est ouvert le dimanche matin, c'est ouvert au public, avec une participation financière de 10 euros. Et ils peuvent venir découvrir le Turbo Kick Power. Donc le Turbo Kick Power, c'est des mouvements d'arts martiaux et de sports de combat sur de la musique entraînante. Voilà, et on fait une chorégraphie et on dépense au niveau calorique.
Ah oui, c'est un mélange entre danse et arts martiaux. Du coup.
C'est ça, voilà, c'est un mélange de danse, arts martiaux, fitness, cardio, méthode cardiovasculaire, renforcement musculaire, et le tout dans une ambiance super festive, avec des musiques qui sont super entraînantes. Et l'objectif, c'est vraiment de passer un super moment ensemble. Tous ensemble.
Eh bien, je vous remercie Dimitri Dogniaux, coordinateur adjoint au Samouraï 2000 et entraîneur de karaté pour le club. Et à bientôt sur Intrantade. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Radio Alpa, l'alternative.
C'est la fin de Sport en Sarthe. Merci à Lucas Liger qui m'a assisté dans la création de cet épisode. Merci à nos invités et merci à vous, bien sûr, qui avez écouté cette émission, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en podcast sur radioalpa.com dans les infos de la rédaction. Sport en Sarthe revient vendredi 23 mai et d'ici là, rendez-vous lundi 19 mai pour C'est d'actu sur Radio Alpa, bien évidemment.